Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Dernière ligne droite dans cette préparation au carême, le dimanche de la Septuagésime, l'Église nous a proposé le but qui est le ciel avec les moyens, en nous rappelant les efforts qu'il nous faut fournir pour arriver à ce but qui dépasse tout entendement, ce bonheur éternel qu'on ne peut même pas imaginer sur terre, bien entendu. La semaine dernière, l'Église nous a rappelé que pour ce but surnaturel du ciel et pour pouvoir faire ces efforts, il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut cette aide surnaturelle dans notre vie de tous les jours. Juste avant le carême, aujourd'hui donc, en ce dimanche de quinquagésime, l'Église nous rappelle que tous ces efforts doivent être animés par la charité. Et donc, avec ces trois éléments, nous aurons de quoi passer un bon carême. C'est l'Épître aujourd'hui qui nous rappelle cette nécessité de la charité. Mais, étant donné que l'homme a une tendance déséquilibrée suite au péché originel, il y aura, bien entendu, un double déséquilibre par rapport à cette pratique de la charité, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Ce déséquilibre qui va se traduire en deux attitudes, l'amour sans les œuvres ou les œuvres sans l'amour. L'amour sans les œuvres, mes bien chers frères, la charité sans les œuvres, c'est une illusion. L'apôtre Saint Jacques nous disait que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais là, il ne s'agit pas de la foi, il s'agit de la charité. Eh bien, l'apôtre Saint Paul nous dit ailleurs, que dans l'épître d'aujourd'hui, que la foi opère par la charité. Et donc, avec ces deux paroles de Saint Jacques et de Saint Paul, nous avons tous les éléments pour comprendre que la foi va opérer justement par la charité. La foi, pour être une foi vivante, va devoir opérer par la charité. Opérer, ça veut dire que la charité va se traduire en acte concret. L'apôtre Saint Paul nous le rappelle dans l'épître aujourd'hui par rapport à la charité envers le prochain, mais cela vaut aussi par rapport à la charité envers Dieu. À ce sujet, l'amour sans les œuvres, il y a un certain nombre, bien sûr, d'hérésies. Dans les premiers siècles, nous avons l'hérésie gnostique qui a cette tendance à négliger les œuvres extérieures puisque pour eux, tout se passe dans l'homme intérieur. Chez les protestants, évidemment, nous connaissons tous les célèbres paroles de Luther qui dit que les œuvres ne servent à rien, tout simplement. Tout ce qui compte, c'est cette espèce de foi protestante qui est mélangée à une espérance présomptueuse et à une fausse conception de l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui nous sauve, finalement, sans notre contribution. Donc pour lui, les œuvres ne servent à rien. Et même, à un endroit, il dit que ceux qui pratiquent ce que nous ferons dans le carême, le jeûne, la prière, etc., les bonnes œuvres, c'est assurément pour lui un signe qu'ils sont damnés. Vous voyez à quel point ce personnage abominable, dont la statue a été mise au Vatican, etc., qui a été célébrée lors de son anniversaire ou je sais pas quoi par Bergoglio et même par ses prédécesseurs. Voyez un peu ce qu'il dit. C'est grave, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, parce que on rejoint la religion actuelle, la religion générale, la pensée commune pour les personnes qui ont un minimum de ce qu'on va appeler croyance en quelque chose de supérieur à savoir que il n'y a pas vraiment d'exigence pratique, ni dans la pratique de l'amour de Dieu, ni dans la pratique de l'amour du prochain, sinon de pas faire de mal aux autres. Bien sûr, cela n'est pas catholique. Et bien sûr, nous devons absolument fuir ce genre de mentalité. Donc, mes bien chers frères, l'amour, la charité, n'est pas quelque chose qui doit rester abstrait, qui doit rester dans notre intérieur, dans notre cœur. C'est quelque chose qui doit se traduire par des actes concrets, des actes d'amour envers le bon Dieu. L'acte d'amour envers le bon Dieu, ce n'est pas, comme le dit notre Seigneur, crier « Seigneur, Seigneur », mais c'est faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'amour concret de Dieu, c'est obéir à ses commandements. C'est encore une fois ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ ailleurs, « Celui qui m'aime, il obéit à mes commandements, il garde mes préceptes. » On le répète, c'est simple, mais il faut le répéter parce que tout le monde actuel a tendance à chercher à nous détourner de cela, à mettre l'amour de Dieu au niveau d'une espèce de sentimentalisme avec des élans du cœur, de la prière « Seigneur, Seigneur » et à ne pas traduire concrètement dans la vie de tous les jours cet amour du bon Dieu. Il ne suffit pas d'aimer, comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut le prouver. Donc voilà, mes bien chers frères, comment aimer le bon Dieu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des commandements, mais il faut faire sa volonté. Sa volonté, on la connaît par ses commandements, par les commandements de l'Église, puisqu'il a fondé l'Église pour être le lien entre lui et nous. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut obéir à l'Église. Bien sûr, pour aimer le bon Dieu convenablement, il faut se mettre dans sa grâce. Donc la nécessité de la grâce sanctifiante et de demeurer dans cette grâce sanctifiante est importante. Cette grâce sanctifiante que nous avons par le moyen principal des sacrements. Donc le sacrement de baptême pour la recevoir la première fois, le sacrement de pénitence, la confession, quand nous avons par malheur perdu la grâce sanctifiante, et puis tous les autres sacrements vont être là pour nous augmenter en nous cette grâce sanctifiante et nous aider pour diverses circonstances, parfois de la vie, comme par exemple le sacrement de l'extrême onction pour nous aider dans les derniers moments de notre vie. Donc l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui doit être concret. De même, et c'est principalement d'ailleurs l'objet de l'épître d'aujourd'hui, en dehors de la comparaison entre les différentes vertus théologales et donc de la primauté, de la charité, de l'amour sur la foi et l'espérance, l'apôtre saint Paul énumère les qualités de l'amour, de la charité envers le prochain. Et il le dit, ce n'est pas uniquement des œuvres purement extérieures. Il nous donne des éléments, cet amour doit être un amour, il faut faire preuve de patience, de bienveillance, etc., etc., relisez et méditez sur tous ces éléments de la charité envers le prochain qui doit s'exprimer de façon concrète. Donc, l'amour sans les œuvres, c'est une illusion. C'est contraire à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est contraire à l'enseignement de l'Église, notamment bien sûr des fondements de l'Église que sont les apôtres. Je n'ai pas cité Saint Jean, mais il insiste aussi sur cette question dans ses épîtres. Et bien évidemment, parce que c'est l'enseignement de notre Seigneur. Mais les œuvres sans l'amour sont vaines. Il faut se le rappeler, et c'est aussi ce que rappelle saint Paul dans son épître. « Je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » On ne peut pas faire plus clair, n'est-ce pas? Cela nous montre, et cela montre que l'humanisme envers le prochain peut être déconnecté de la charité, peut être sans amour. Les bonnes œuvres extérieures, qu'elles soient vis-à-vis de Dieu, comme la prière, peuvent être déconnectées, malheureusement, de ce qui est censé les animer, c'est-à-dire la charité, l'amour. Et c'est un point extrêmement important. L'amour doit s'exprimer par des œuvres, et les œuvres doivent être habitées par cet amour. Sinon, par exemple, c'est ce que nous rappellera notre Seigneur Jésus-Christ mercredi pour les œuvres particulières du carême, comme le jeûne, ce fameux pharisien qui jeûne pour être vu. Il ne jeûne pas par amour de Dieu. À la limite, il jeûne pour obéir au commandement du jeûne, puisqu'il y avait certains jeûnes prescrits chez les Juifs. Mais il ne le fait pas par amour, il le fait pour sa propre gloire, pour être vu des autres hommes. De même, celui qui fait l'aumône, qui donne aux pauvres pour se faire voir. Notre Seigneur donne ces exemples-là, et on voit que il n'y a pas d'amour dans des œuvres qui sont pourtant en soi bonnes. C'est une leçon pour nous, et pendant ce carême, nous devons veiller à purifier nos actions extérieures. Purifier nos actions extérieures, c'est en purifier l'intention. Purifier l'intention de nos actions extérieures, c'est mettre plus d'amour de Dieu et plus d'amour du prochain quand les œuvres concernent évidemment le prochain. Nous ne jeûnons pas pour nous-mêmes, pour notre propre gloire, pour notre propre corps. Nous jeûnons pour Dieu. Parce que même si le jeûne a ce but de pénitence, donc de réparation pour nos péchés, est-ce que la réparation de nos péchés a pour fin nous-mêmes? Eh bien, non. Elle a pour fin Dieu. Et elle doit avoir pour fin Dieu. Et cela doit être conscient. Pourquoi nous jeûnons? Pour faire pénitence? Pourquoi nous faisons pénitence? Pour réparer nos péchés? Pourquoi nous réparons nos péchés? Pour mieux aimer le bon Dieu, pour mieux correspondre à sa volonté, pour que notre âme soit plus pure pour lui, pas pour nous, pas pour notre coquetterie spirituelle. C'est ça que nous enseigne notre Seigneur Jésus, c'est ça que nous enseigne l'apôtre saint Paul, les apôtres, l'Église. Donc il faut que nous soyons conscients de cette réalité. Il faut que nous soyons conscients éventuellement des impuretés de nos intentions, notamment par rapport à ces grands éléments que sont la prière, le jeûne, l'aumône pendant le carême, qui se traduit de nombreuses façons, en n'oubliant pas que sur ces questions d'aumône, de donner aux autres, il faut commencer par pratiquer la justice avant de pratiquer la charité. Parce que la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Tandis que la charité, c'est donner en plus, notamment bien dans cet ordre de charité extérieure. Je vous le rappellerai, bien entendu, par rapport au devoir de justice, notamment envers l'Église, envers ses ministres. c'est un devoir d'abord de justice qu'il faut accomplir, bien sûr, avec aussi cet amour, comme toutes nos actions. Donc, purifions nos actions. Pour cela, il faut purifier nos intentions. Pour cela, il faut être lucide sur nos intentions. Il faut être lucide sur nos intentions et y mettre plus d'amour de Dieu. L'œuvre extérieure, toutes nos œuvres extérieures doivent donc être animées par la charité. Sinon, à quoi sera réduite notre vie chrétienne? Et c'est malheureusement ce qu'on va trouver chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, spécialement traditionnalistes, spécialement d'ailleurs cédévacantistes, prendre de façon large, c'est-à-dire un certain formalisme. On cherche à savoir toutes les prières qu'il faudrait dire, toutes les pratiques à faire, etc. Les plus petites pratiques sont considérées comme des commandements directs de Dieu ou de l'Église, alors que la plupart du temps, ce sont des recommandations. Et toutes ces pratiques ne sont faites que dans cette peur de désobéir à Dieu, de désobéir à l'Église, etc. Ce qui en soi n'est pas une intention mauvaise, mais ce n'est pas suffisant pour tenir notre vie spirituelle. Parce que toutes ces pratiques, si elles sont faites comme ça, sans être animées par l'amour de Dieu, un véritable amour, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit être ordonné à Dieu, doit être fait parce que Dieu est notre bien, notre fin ultime. C'est ça, l'amour de Dieu. Si c'est fait de cette manière, par crainte de mal faire, par multiplication de pratiques extérieures, on risque de tomber dans cette pratique religion pharisaïque qui existe au temps de notre Seigneur, où nous voyons ces fameux pharisiens, docteurs de la loi et compagnie, reprocher aux apôtres de ne pas se laver les mains avant de manger, ce qui était une pratique juive. Aujourd'hui, dans les pratiques du Talmud, certains voient peut-être ça. Maintenant, tout le monde expose sa vie sur les réseaux sociaux, donc même la brave mère de famille juive se fait influenceuse avec toutes ces pratiques talmudiques de casseroles de couleurs différentes, parce qu'il faut des casseroles pour les laitages et puis des casseroles pour la viande. Bien entendu, je l'espère que nous ne tombons pas dans des choses comparables à ce pharisaïsme talmudique, mais faisons attention, mes bien chers frères, à cette religion qui serait faite de petites pratiques comme ça extérieures et qui ne serait plus animée par un véritable amour de Dieu. Donc de faire ces choses-là, de prier, de jeûner, de faire des bonnes œuvres, eh bien parce que Dieu mérite qu'on se tourne vers lui, parce que Dieu est notre fin, notre but, et que ces bonnes pratiques, ce sont les moyens d'aller vers cette fin, vers ce but. Il ne faut jamais donc perdre de vue le but, comme on l'a vu donc le dimanche de la Septuagésime, il y a 15 jours. Donc il faut absolument nous remettre dans ce bon état d'esprit, dans cette bonne mentalité qui est, mes bien chers frères, de faire tout ce que nous faisons pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu, dit l'apôtre saint Paul. Mais finalement, rechercher la gloire de Dieu, c'est montrer précisément que nous l'aimons. Et donc toutes ces pratiques, toutes ces résolutions peut-être que nous allons prendre pour ce carême, il faut impérativement, si nous voulons les tenir, qu'elles soient animées par un fervent amour de Dieu. Voilà donc, mes bien chers frères, à quoi l'Église nous invite aujourd'hui, à quoi je voulais vous inviter aujourd'hui, juste avant ce carême. À unifier votre vie chrétienne. La véritable charité ne se contente pas de belles paroles. Elle ne se contente pas de bons sentiments. Elle s'incarne dans des actes concrets. Mais comme le dit saint François de Sales, ce que Dieu veut, ce ne sont pas tant nos œuvres, ces actes concrets, pour nécessaires qu'ils sont, je le rappelle. Dieu ne veut pas tant ses œuvres que notre cœur, dit saint François de Sales, qui a écrit un magnifique traité de l'amour de Dieu, justement. Il faut donc que nos bonnes œuvres quotidiennes, les œuvres particulières que nous allons produire, les actes particuliers, les pénitences particulières, les prières spéciales et autres pratiques bonnes que nous allons mettre en place pendant ce carême, il faut que tout cela soit animé par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain. Donc faisons des efforts là-dessus, et pour terminer, mes bien chers frères, pour vous aider dans cet état d'esprit des anciens qui est traduit par saint Benoît dans son très beau chapitre sur les instruments des bonnes œuvres, je vais vous donner un instrument, une maxime que vous pourrez répéter souvent, parce que c'est facile à retenir et pour vous aider. Cette maxime, ni l'amour sans les œuvres, ni les œuvres sans l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.